18h, le journal. Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un hommage national aux presque 120 000 morts du Covid. Il aura lieu avant la fin du quinquennat, sans doute au mois de mars. Information France Inter à la une ce matin. Détail dans un instant. 3%, la croissance française inédite depuis 50 ans. Les chiffres du troisième trimestre viennent de tomber. Dans ce journal aussi, un coup de gueule contre le TGV poussé par Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Il ne veut pas de la future ligne à grande vitesse entre sa ville et Toulouse. On va l'entendre. Ne l'appelez plus Facebook, mais Meta, nouveau nom de la maison mère du géant californien empêtré dans les scandales. Ce sera le sujet du grand entretien.
À 8h20, avec le sociologue spécialiste des médias et des réseaux sociaux, Dominique Cardon, les dérives de Facebook, le réseau social est-il hors de contrôle? Est-il encore possible de le réguler? Question aussi sur le débat public en France, à 6 mois de la présidentielle. La place accordée aux extrêmes. Auditeurs d'Inter, vous posez vos questions. 01 45 24 7000.
Attention aux fausses annonces sur Internet. Louer une maison et trouver un terrain vague à l'arrivée. Conseil de gendarmes dans ce journal. Et puis un rêve de sportif, c'est Kylian Mbappé qui déclare sa flamme aux Jeux Olympiques. Le champion du monde de football déjà dans les starting blocks pour Paris 2024.
France Inter.
Ils sont des dizaines chaque jour encore. Hier jeudi, 33 personnes mouraient du Covid à l'hôpital. Depuis l'apparition de la pandémie en France, plus de 117 000 malades ont succombé au virus. Et si les États-Unis ont rendu hommage à leurs morts il y a plusieurs mois déjà, il n'y a rien eu encore en France, malgré les demandes répétées des associations. Eh bien, ça ne saurait tarder, vous nous le révélez ce matin, Simon Lebaron, il y aura bien un moment de recueillement national avant la présidentielle.
Un hommage avant la fin du quinquennat. C'est la volonté du gouvernement, nous confie une source très proche du dossier. Matignon pilote la réflexion, même si évidemment c'est Emmanuel Macron qui sera en première ligne. Cérémonie ponctuelle, journée annuelle, mémorial, on avance sur la question, assure l'entourage du Premier ministre. On veut trouver la bonne formule en accord avec les associations. Quant au moment choisi, le mois de mars paraît s'imposer comme une évidence, 2 ans après le premier confinement. Cela fait partie des pistes sérieuses, confirme un conseiller. Mars 2022, un mois avant le premier tour, risqué politiquement pour Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, certains de ses adversaires l'accusaient de se défiler pour ne pas avoir à assumer le poids des 100 000 morts du Covid, près de 120 000 aujourd'hui. Le président d'une association de victimes voit les choses autrement. Les familles endeuillées, qui pour beaucoup n'ont pas pu dire adieu à leurs proches dignement et attendent cet hommage avec impatience, ce sont aussi, souligne-t-il, plusieurs millions d'électeurs.
Information Simon Lebaron pour France Inter. Le pass sanitaire et l'état d'urgence prolongé, d'accord, mais pas au-delà du mois de février. Le Sénat, à majorité de droite, ne suit pas le gouvernement qui veut une prolongation jusqu'en juillet prochain. Il a profondément remanié son texte cette nuit. Mais à la fin, même sans l'accord des sénateurs, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot.
Paris-Toulouse en un peu plus de 3 heures en train au lieu de 4h20 aujourd'hui.
Et oui, grâce au projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse, dernière métropole à ne pas être desservie par le TGV. C'est la relance du train à grande vitesse annoncée au printemps dernier après une pause au début du quinquennat. Sauf que ce nouveau TGV, le maire écolo de Bordeaux, Pierre Urmic, n'en veut surtout pas.
Il me paraît totalement insensé. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est favoriser les trains du quotidien. C'est d'ailleurs exactement ce que disait le président de la République il y a de cela quelques années, au début de son mandat. Et là, subitement, à quelques mois d'élection présidentielle, on est en train de revenir au LGV au détriment des trains du quotidien. Mais moi, aujourd'hui, en tant que maire responsable, je dis, mais non, on a déjà englouti des milliards d'euros dans les LGV. On a vu que ça a asséché nos territoires, que la clientèle des TGV, c'est 10% de la clientèle SNCF. On est en train de sacrifier 90% des usagers quotidiens du train, tous ces gens qui habitent dans la périphérie de nos villes et qui ont besoin du train pour venir travailler, qui ces dernières années ont subi une dégradation importante du service ferroviaire au motif que l'idéologie, le dogme, était auto-TGV. Mais je dis, il faut changer peut-être maintenant de logiciel.
Le coup de gueule de Pierre Urmic, maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux contre la grande vitesse et à rebours de l'enthousiasme d'Emmanuel Macron, la décennie 2020 sera la décennie TGV, avait dit le président en fêtant les 40 ans du train à grande vitesse au mois de septembre. Et du train à l'avion, Air France KLM a nettement réduit ses pertes au troisième trimestre. Plus de vols et plus de passagers entre juillet et septembre. La compagnie ne perd plus, si l'on peut dire, que 192 millions d'euros au lieu des 1,5 milliard à chaque trimestre précédent. Et puisqu'on est à l'heure des comptes, les chiffres de la croissance française viennent de tomber pour ce même troisième trimestre estival et ils sont très bons. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour, oui, la reprise économique économique s'accélère. La croissance est trois fois plus forte au troisième trimestre qu'au deuxième, plus 3% pour le produit intérieur brut qui progresse en particulier grâce à la consommation. En juillet, août, septembre, l'économie a profité à plein de la réouverture des secteurs liés aux loisirs et au tourisme. La consommation gagne 5% et tire donc la croissance vers le haut. Des résultats salués ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, depuis Rome où il se trouve pour le sommet du G20.
3% de croissance en un trimestre, c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans. C'est une performance qui est exceptionnelle et c'est une performance qui va nous permettre de retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant-crise. Nous avions prévu de le retrouver au plus tôt fin 2021, peut-être début 2022. Nous allons retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant-crise. Ça veut dire que la France est dans la bonne direction. Elle se redresse vite. Et elle se redresse fort.
Bruno Le Maire, joint par nos confrères de France Info, a noté également que le commerce extérieur revient lui aussi dans le vert, plus 0,6% après avoir passé deux trimestres en négatif. Les investissements des entreprises restent quant à eux relativement stables, toujours au-dessus de leur niveau d'avant-crise.
Fabien Cazot, merci. 3% de croissance en France au troisième trimestre, c'est plus qu'aux États-Unis où l'activité a fortement ralenti cet été à cause des pénuries et de la dernière vague de Covid. Dans ce contexte, Joe Biden revoit ses ambitions à la baisse. Avant de quitter Washington pour le G20 de Rome et la COP de Glasgow, il a divisé par deux les investissements de son plan de relance et abandonné l'idée de taxer les super riches. Joe Biden qui rencontrera Emmanuel Macron cet après-midi à Rome en marge du sommet du G20, séquence réconciliation après la crise des sous-marins vendus à l'Australie. En revanche, personne ne verra Xi Jinping, le président chinois, si ce n'est en vidéo. Il ne se rendra ni au G20 ni à la COP. Il n'a pas mis les pieds hors de Chine depuis presque 2 ans. C'est donc un sommet climatique sans le principal pollueur de la planète qui s'ouvrira dimanche en Écosse. Et chaque matin, vous le savez, on s'arrête sur un des chiffres du réchauffement climatique. Ce matin, 3,7 mm, c'est l'augmentation du niveau de la mer chaque année. Et désormais, c'est irréversible, Sandy Dauphin.
C'est ce qu'observent les scientifiques depuis un peu plus d'une dizaine d'années. La montée globale des océans se fait à un rythme de 3,7 mm par an. Cela peut paraître peu, mais si l'on accumule, ça fait déjà 20 cm depuis un siècle et le phénomène s'accélère. Jean-Baptiste Salé, chercheur climatologue au CNRS, est l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC.
Il y a deux causes à l'élévation du niveau des mers. La première, c'est le réchauffement des océans. Un océan plus chaud prend plus de volume, il se dilate. Et ça, ça fait augmenter le niveau des océans. C'est à peu près 50% de l'augmentation du niveau des océans actuel. Et puis l'autre raison, c'est d'ajouter de l'eau dans l'océan. Et donc on ajoute de l'eau quand on fait fondre des glaciers ou quand on fait fondre les calottes polaires.
Aujourd'hui, on ne peut pas stopper cette montée des eaux, même si l'on respecte l'accord de Paris, mais on peut la limiter.
Si on regarde à la fin du siècle, avec un scénario d'émissions plutôt faible, si on arrive à limiter la température de la Terre à 1,5 degré par exemple, on aura une augmentation supplémentaire, en plus des 20 cm qu'on a déjà eu, d'à peu près 40 cm. Pour un scénario plus pessimiste, on arriverait à 80 cm en plus des 20 cm déjà observés.
Autrement dit, si le réchauffement climatique s'emballe dans une fourchette comprise entre plus 3 et plus 4 degrés, la montée des eaux pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle.
Sandy Dauphin, côté pêche, ça ne s'arrange pas entre la France et le Royaume-Uni. Londres veut convoquer l'ambassadrice de France après les menaces de rétorsion de Paris à partir de mardi prochain si les Britanniques ne délivrent pas davantage de licences aux pêcheurs. Quand une goutte de sang permet de mesurer l'urgence d'un AVC, plusieurs hôpitaux mènent des essais cliniques en ce moment sur un projet de recherche prometteur. On en parle ce matin à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC. Et s'il est efficace, Véronique Julia, ce procédé permettra d'éviter de nombreux handicaps à vie lorsque l'AVC n'est pas pris à temps.
Faiblesse d'un côté du corps, déformation de la bouche, difficulté à parler, ce sont des signes qui doivent alerter. Dans ces cas-là, on appelle le SAMU ou les pompiers, mais dans une minorité d'interventions seulement, ce sera bel et bien ce qu'on appelle un AVC ischémique, c'est-à-dire qu'une artère est bouchée par un caillot dans le cerveau et qu'il faut très vite pratiquer une thrombolyse intraveineuse pour dissoudre le caillot, voire une thrombectomie pour bien retirer le caillot et rétablir au plus vite la circulation sanguine. Problème, les délais médians de prise en charge en France sont corrects, mais largement perfectibles, et dans cette course contre la montre, piquer le bout du doigt du patient dès l'intervention de l'équipe de secours pour en extraire une goutte de sang qui va permettre, grâce à des biomarqueurs et à un algorithme, de qualifier immédiatement à quoi on a affaire, du grave ou du moins grave, pourrait permettre de gagner de précieuses minutes. Jean-Philippe Desilles est neurologue à la Fondation Rothschild.
On n'aura peut-être plus besoin de l'IRM ni du scanner qui prend quasiment une heure pour pouvoir être réalisé. On pourra directement sélectionner des patients qui iront directement dans les hôpitaux qui disposent d'une thrombectomie. Et donc, on va probablement gagner encore beaucoup plus de temps et donc beaucoup plus de neurones.
Faute d'aller assez vite, en effet, on estime qu'un patient sur deux pris en charge à l'heure actuelle pour AVC reste lourdement handicapé après 3 mois. L'AVC touchera un Français sur 6 dans sa vie. Il peut survenir à tout âge, mais l'âge moyen est de 74 ans.
Véronique Julia, la cigarette électronique sur prescription médicale pour arrêter de fumer. Le gouvernement britannique ouvre la voie en demandant aux fabricants de faire une demande à l'agence du médicament, ce qui en ferait le premier pays du monde à adopter la vapoteuse comme dispositif médical. Louer une maison sur Internet pour les vacances et s'apercevoir à l'arrivée qu'elle n'existe pas. Les arnaques aux fausses annonces se multiplient ces dernières années. La gendarmerie de Charente-Maritime, par exemple, dit en recevoir des plaintes tous les jours et pas seulement pour les locations. Alors comment travaillent les enquêteurs numériques de la gendarmerie? Reportage signé Solène Gardré à la caserne de Lagor en périphérie de La Rochelle.
Les yeux rivés sur son ordinateur, le gendarme Guillaume Bailly scrute des annonces de location sur Internet. Et l'une d'entre elles retient son attention.
Appartement Saint-Martin-de-Ré, 3 pièces, 5 personnes, sans aucun avis ni rien.
Il analyse les photos de l'annonce dans un logiciel.
La photo apparaît que sur des sites de vacances à l'étranger. Une photo à La Couarde, alors que cet appartement normalement se situe à Saint-Martin-de-Ré. Et à un autre endroit, à Les Portes-en-Ré.
Des maisons qui n'existent pas, les gendarmes en trouvent tous les jours sur des sites comme Le Bon Coin, Booking ou Abritel. Et c'est pareil pour les voitures, explique l'adjudant et enquêteur numérique Julien Lobreton.
On retrouve des biens soit issus de vol, également des fausses annonces. Souvent, ce sont des véhicules qu'on retrouve sur différentes plateformes, comme ce qu'on vous a montré pour les locations. Et donc là, c'est pareil, il faut faire attention.
Attention, oui, mais comment? Les gens doivent d'abord adopter une attitude méfiante, recommande l'adjudant.
Faire des vérifications complètes et pas simplement croire ce qu'ils voient à l'écran, une belle image d'une location.
Autre solution, imprimer une attestation de vente.
L'identité du vendeur et l'identité de l'acheteur sont mentionné, le bien qui a été acheté ou vendu, et ce document, il est signé par les deux parties.
Enfin, il est possible de vérifier si les photos des annonces sont vraies. Le site Tinaï permet par exemple de trouver tous les doubles d'une photo sur Internet.
Enfin voilà, une vraie annonce signée Kylian Mbappé qui clame son envie de participer aux Jeux de Paris en 2024. Les Jeux qui ne sont généralement pas la priorité des footballeurs, mais pour le champion du monde, c'est le Graal de tous les sportifs qu'il n'entend pas laisser filer. Julien Froment.
Et cette déclaration, Kylian Mbappé l'a faite dans l'auditorium de Radio France. Là-bas, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été, comme à son habitude, très clair. Impossible pour lui de manquer les Jeux de Paris 2024.
C'est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière. C'est vraiment l'ADN même du sport. C'est l'événement qui rassemble le monde entier. C'est l'événement qui rassemble les passions. C'est l'événement qui rassemble toutes les personnes, grandes et petites. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve.
Un engagement fort quand on sait que le tournoi olympique de football n'est pas dans les dates des compétitions FIFA et qu'un club peut empêcher un joueur d'y participer. Une prise de position saluée par la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu.
Je suis extrêmement ravie de cette prise de position de Kylian Mbappé. Lui est un symbole et cette prise de position est le symbole justement que... Il a compris de ce que sont les Jeux Olympiques pour un athlète. Et ça, ça n'a pas de prix pour un athlète qui gagne beaucoup d'argent au quotidien, qui fait partie de la famille du football. Faire partie de la famille du sport, je pense que c'est quelque chose d'encore plus grand. Et Kylian le dit très bien.
Kylian Mbappé, un ambassadeur de luxe pour le comité d'organisation qui veut lui aussi rêver plus grand pour ces Jeux de Paris 2024.
Et puisqu'on parle des Jeux à 1001 jours de la cérémonie d'ouverture, voici une salle mythique de la région parisienne que ces Jeux vont ressusciter. C'est le Palais des Sports de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, qui n'a pas vu passer que des événements sportifs, mais aussi les Pink Floyd, Led Zeppelin ou Bruce Springsteen dans les années 70-80. Aujourd'hui, le bâtiment est désaffecté. Les travaux, Rémi Brancard, vont commencer au début de l'année prochaine.
À la pointe sud de l'île Saint-Denis, Alejandro vient souvent se promener devant ce bâtiment fermé recouvert de tags.
Je l'ai toujours vu comme ça. Et le bâtiment lui-même, il est assez dingue.
Unique aussi par son architecture, certains voient une coque de barque renversée ou une bouche de baleine. Le transformer en site d'entraînement des JO va coûter 12,5 millions d'euros.
Il a eu tendance à prendre l'eau, ça a abîmé les parquets, mais sa structure est en bon état.
François Chatillon, l'architecte du projet, va redonner vie à ce symbole de l'architecture de la banlieue rouge inaugurée en 71.
Les trois constructeurs communistes, ils ont une idée, le sport c'est quelque chose d'absolument nécessaire et on va lui offrir un bâtiment qui représente le progrès, quelque chose de jamais vu ailleurs.
La grande nef est alors au cœur de la vie quotidienne. Dans les années 70, Karim Bouamran est enfant, il est aujourd'hui maire socialiste de Saint-Denis. Saint-Ouen.
Chaque 23 décembre, tous les gamins de toutes les écoles de Saint-Ouen se retrouvaient. Et c'était traditionnellement la distribution des cadeaux portés par le communisme municipal de l'époque. C'était magnifique.
Avec des compétitions sportives et des concerts mythiques comme en 81.
Bruce Springsteen, hier soir au Palais des Sports de Saint-Ouen.
Bruce Springsteen, il est venu en 1981. On aurait bien le faire venir juste avant les Jeux Olympiques.
Et après le passage des athlètes olympiques et l'hypothétique concert du boss, le maire veut faire de la Grande Nef un pôle de formation sportive d'excellence.
Faire revenir Bruce Springsteen.
Ah oui.
Décidément, les Jeux, c'est vraiment une usine à rêve.
Oui.
Hein.
Ouais. Tout le monde va être d'accord, là, il n'y a aucun problème. Merci Florence Paracuelos pour ce journal. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Marie-Pierre, deux départements en vigilance orange, pluie, inondation.
Oui, Jérôme, qui concerne le Gard et la Lozère, car on a un épisode Cévenol qui est en train de se mettre en place sur le golfe du Lion et les Cévennes, car de l'instabilité remonte de Sardaigne et de Sicile, qui va porter donc jusqu'à 2 mois de pluie d'ici samedi soir. Cette vigilance va donc évoluer au fil des heures et à surveiller. Alors le ciel restera pluvieux des Bouches-du-Rhône à la Côte d'Azur jusqu'à la Corse. En revanche, sur l'est du pays, la journée va rester ensoleillée après la dissipation des brouillards. De la Lorraine à l'Alsace en descendant sur les Alpes, et au fil des heures, eh bien le ciel va se voiler, mais ça restera lumineux.
Et la perturbation qui est arrivée par l'ouest va traverser le pays lentement.
Oui, dès ce matin, on retrouve donc les pluies et un vent fort de la Normandie jusqu'au Cotentin en descendant sur le pays de la Loire à la Gironde. Et ces pluies gagneront cet après-midi l'est des Pyrénées en remontant vers le centre et l'Île-de-France aux Ardennes et Hauts-de-France. N'oubliez pas le parapluie, épargnant quand même l'est des Pyrénées et le nord du Massif central. Et côté du Mercure, eh bien ce matin, c'est contrasté entre les 0 dans le Bas-Rhin et les 19 à Cambo-les-Bains. Et dans l'après-midi, ça va baisser dans l'ouest. On attend seulement 15 à Brest. Vous aurez 15 également à Lille et à Paris, 18 à Nevers, 19 à Montpellier et Bastia, 20 à Saint-Jean-de-Luz, 22 à Marseille et Calvi.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure, 8h16, Géopolitique.